Voilà, bah, bienvenue sur le cours de F6KGL, et nous voyons donc la troisième partie du chapitre 1, et nous voyons ce soir les résistances et leur montage, et on va faire des applications, après avoir, il y a maintenant 3 semaines, vu les formules qu'il fallait utiliser pour cela. Donc on va commencer tout de suite à faire ces calculs, ces applications. Alors, pour votre information, en fait, on va faire étudier deux groupements composés de deux résistances qui sont identiques, une résistance de 80 ohms, une résistance de 120 ohms, et ces deux résistances, donc l'une montée en série et l'autre montée en parallèle, vont toutes les deux, enfin ces deux groupements vont être alimentés par la même tension, 10 volts. Et on va voir que les résultats, et donc les calculs pour arriver aux résultats, évidemment sont bien différents, et on va voir que les valeurs n'ont rien à voir entre elles. Donc ce qui est quand même important de bien savoir quand on a un groupement, savoir si c'est en série ou en parallèle, parce que évidemment c'est pas du tout la même manière de faire les calculs et encore moins les résultats. Et donc on va essayer de faire ça avec une calculette que je vais mettre à zéro. Voilà. Le premier groupement, c'est le groupement série. Donc je vous le dessine. Je vais mettre sur la webcam. Alors, donc ici, 80. Ici, 120. Et ici, 10 volts. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à faire les 4 calculs dont on a besoin, c'est-à-dire calculer la résistance équivalente, calculer la répartition de tension, calculer la répartition d'intensité et calculer la répartition de la puissance. Alors, évidemment, il y a encore un reflet à la noix, ça va, c'est pas trop moche. On arrive encore à lire. Donc, première chose, la résistance équivalente, RT. RT, c'est quoi? C'est l'addition, alors c'est pas 120, c'est 20. Ça serait mieux si je mettais les bonnes valeurs. Voilà, 20 ohms. Et donc la résistance équivalente que j'appelle RT comme R total, ou l'appelle comme on veut, hein, et aussi, on peut écrire aussi REQ ou comme R résistance équivalente. Bon, moi j'ai choisi le terme RT comme résistance totale, c'est pas grave. Et donc dans un groupement en série, comme cela, les valeurs des résistances s'additionnent. On sent bien que si on a une résistance de 80 ohms et à la suite une résistance de 20 ohms, les deux vont s'additionner, c'est-à-dire que ça va résister plus au passage du courant. Je rappelle, la résistance, c'est quoi? C'est le fait que c'est un mauvais conducteur, en fait, qui fait que qui va s'opposer au passage du courant. C'est comme si vous aviez un tuyau d'eau et qu'à un moment vous avez un rétrécissement de ce tuyau. Si vous avez un rétrécissement du tuyau, automatiquement l'eau va avoir plus de difficultés à passer, sauf à mettre plus de pression. Et donc c'est exactement ce qui se passe en électricité. Hein, si ce n'est que ce n'est pas de l'eau qui passe dans un tuyau, ce sont des électrons qui passent dans un conducteur. Mais au final, c'est exactement pareil. Et donc, ma résistance équivalente, eh bien, ça va être l'addition de mes deux résistances, donc ma résistance de 80 ohms plus la résistance de 20 ohms. Donc ça me fait 80 plus 20. Je sors pas ma calculette quand même. Hein. Et ça me fait 100. Voilà. Donc ça me fait 100 ohms. Voilà, il n'y a rien de particulier. J'ai même pas eu besoin de sortir ma calculette. C'est très simple. Maintenant, dans un premier temps, je vais plutôt essayer de calculer l'intensité. Oui, d'ailleurs, ça résiste au courant et ça porte bien son nom. Hein. C'est pas, ça résiste au courant, voilà. Et si on regarde bien, finalement, et ça, je vais utiliser ma loi des nœuds et des mailles. Si on regarde bien, mon intensité, elle est identique en tout point du circuit, c'est-à-dire qu'elle est identique à l'entrée, elle est identique entre mes deux résistances et elle est identique à la sortie, c'est-à-dire que mon intensité qui passe ici, ici et ici est strictement la même. Hein? Puisque je n'ai pas, ici par exemple, je n'ai pas de fil qui irait sur un autre circuit ailleurs. Si j'avais ce fil-là avec un autre circuit à l'heure, je suis certain que dans ma deuxième résistance, je n'aurais pas la même intensité que dans la première. Puisque ici, ça s'échappe et je ne sais pas ce qui se passe. Il se peut très bien aussi que, que je récupère une intensité. Soit l'intensité va sortir du circuit, soit elle va rentrer. Mais en tout cas, je suis quasi certain, sauf évidemment si derrière il n'y a rien de branché, évidemment, mais s'il y a quelque chose de branché, je suis certain que je n'ai pas avoir les mêmes intensités dans mes deux résistances-là. Hein? Donc là, je retire cette partie-là, et donc je n'ai que cette intensité, et l'intensité totale, c'est égal à l'intensité de R1, qui est égal à l'intensité de R2. L'intensité, ça va être quoi ? I est égal à U sur R. Alors là, j'aurais peut-être pas dû commencer par là. Je vais commencer par la tension. Pourquoi ? Parce que là, on commence à parler de U, et j'ai pas encore calculé U. Donc je vais commencer par la tension. La tension, on avait vu qu'elle était proportionnelle à la valeur des résistances. Elle était proportionnelle à la valeur des résistances. Ce qui veut dire que ma tension sur R1, que je vais appeler UR1, est égale à UT multiplié par R1 divisé par RT. D'accord ? On met les valeurs qui vont bien. UT, c'est 10 volts, multiplié par R1, 80, divisé par RT, 100. Et donc, c'est égal à 8 volts, évidemment. On voit bien, là, même sans sortir la calculette, que si j'ai 10 volts là, et mes deux résistances qui font en tout 100 ohms, on va bien voir que c'est une répartition, ici 80%, 20%. Là, c'est tellement simple que je ne devrais même pas poser ce genre de calcul. Ça, c'est valable si on a des valeurs un peu plus difficiles à calculer. Ou si on a plusieurs résistances. Là, j'en ai deux. Avec des valeurs comme ça, c'est vraiment très dommage de passer du temps à essayer de calculer ça. Donc ça, c'est pour R1. Pour R2, UR2 est égal à encore une fois, UT multiplié par R2 divisé par RT, qui est égal donc à 10 fois 20 divisé par 100, et ça c'est égal à 2. Donc vous remarquez que sur ma première résistance, c'est 8 volts, sur ma deuxième résistance, c'est 2 volts. Et quand on fait le tour de la maille, loi des nœuds et des mailles, vous apercevez que 8 plus 2 égale 10, et donc j'ai bien retrouvé mes 10 volts totaux qui sont là. Donc, je dirais, tout va bien. Autre solution pour calculer R2, comme je connais ma loi des nœuds et des mailles, je dis que R2, sans faire mon calcul là, c'est égal à 10 moins 8, égale 2. Voilà. Mais, sans faire de calcul compliqué, je pense que tout le monde a bien vu que voilà, la répartition, c'est 8 volts et 2 volts. Sans chercher à faire des trucs compliqués. On va passer maintenant à au calcul de l'intensité. L'intensité, donc on va mettre mes valeurs. Volts et ici 2 volts avec un 8 qui est très moche, mal écrit, mais que tout le monde aura compris. Alors j'efface ça et remarquez que j'ai pas encore sorti ma calculette, hein. Elle a pas encore chauffé. Généralement elle la fait pas trop chauffer pour les montages en série, comme ça, on n'a pas trop l'intérêt à la faire monter. Maintenant que j'ai ces valeurs-là, intensité, quelle est l'intensité ? L'intensité totale. C'est égal à UT. Alors, je rappelle quand même la loi d'Ohm, c'est I égale U sur R. Hein, puisque U, R, I. Et donc, quand on regarde U, R et I, mon triangle, si je cache ici mon I, ça me fait donc U sur R, U divisé par R. Et donc mon intensité totale, c'est donc la tension totale divisée par la résistance totale. Donc c'est égal à 10, à 100 sur 10 est égal à pardon, 10 volts divisé par 100 ohms est égal à 0,1 ampère. Je peux dire aussi que IR1 est égal à U de R1 divisé par R1. C'est égal à donc à 8 divisé par 80. Égal à 0,1 ampère. Et de même, I de R2 est égal à U R2 divisé par R2 est égal à 2 divisé par 20 est égal à 0,1 ampère. Donc tout ça, on voit bien que, et sans faire de calcul, on voit bien qu'on a la même intensité ici, en total, alors l'intensité qui rentre ici, l'intensité qui est passée dans R1, IR1, et l'intensité qui est passée dans R2, IR2. D'accord ? Donc ça, c'est... Alors, c'est pas vraiment ma répartition d'intensité, puisque j'en ai pas de répartition d'intensité, c'est la même partout. Donc, j'ai pas de débat, et je peux marquer que ici, au lieu de IT, je mets 0,1 ampère ou 100 milliampères. D'accord ? D'ailleurs, souvent, dans les questions d'examen, on va pas vous parler, enfin, dans les réponses, on va vous proposer 100 mA, pour aussi vérifier que vous maîtrisiez bien le passage, enfin, les multiples et sous-multiples. Donc ça, c'est l'intensité. Maintenant, et encore une fois, je n'ai pas sorti ma calculette, parce que, bon, 10 divisé par 100 ou 8 divisé par 80, voilà, je pense que c'est quelque chose que on peut faire naturellement. Alors, est-ce que j'ai des questions sur le chat? J'ai pas de questions. Dernière chose, c'est la répartition de la puissance, un calcul de la puissance totale et répartition de la puissance. Et là, on a maintenant qu'on a tout, alors, donc on a U est égal à RI, mais aussi on a aussi toutes les autres formules, notamment P, U, I, mais aussi toutes les autres. Et on va les faire U2, P, R, et P, R, I, 2. Donc là, je vais les entourer pour montrer mes triangles. Voilà. Donc là, j'ai tous mes triangles. Bon, on va les faire. On va les faire tous, hein. Alors, on va commencer par faire la puissance totale. Donc encore une fois, puissance totale, c'est quoi? C'est puissance. Donc c'est P égale U multiplié par I. U, 10, multiplié par I, 0,1, est égal à 1 watt. Donc là, on va commencer par calculer la puissance totale, puis après, on verra la répartition de puissance. Deuxième, c'est donc U2 sur R. Comme j'ai toutes les valeurs, maintenant, je vais pouvoir m'amuser. U2, c'est 10 au carré. Alors, donc, ma puissance, c'est ce chiffre-là. Donc, ma puissance, c'est P égale U2 sur R. Donc, je divise par R, c'est-à-dire 100. Donc, 10 au carré divisé par 100, ben, ça me... alors 10 au carré, c'est 100, et 100 divisé par 100, ça me fait 1 watt. P égale RI2, donc là, c'est P qui est ici, que je cache, donc ça me fait résistance multipliée par intensité au carré. Résistance, c'est 100, multiplié par 0,1 au carré, et c'est égal donc à... Alors 0,1 au carré, c'est 0,01, et 100 multiplié par 0,01, ça fait encore 1 watt. Donc en fait, à partir de nos 4 formules, là, j'ai bien retrouvé 1 watt. Et j'ai donc 1 watt. Maintenant, quelle est la répartition de ma puissance? Eh bien, ma puissance, elle est répartie au prorata des résistances ou des tensions. Ce qui est pareil. Donc, alors, on peut aussi utiliser donc cette répartition avec la tension. Donc, par exemple, sur R1, P, R1 est égal à donc UI, U. U, c'est 8 volts, multiplié par I, alors, 0,1. Donc, ça me donne 800 milliwatts. C'est écrit très moche, mais j'ai un gros stylo. Voilà. Et PR2 est égal à 2 multiplié par 0,01 qui est égal à 200 milliwatts. Voilà. Je peux aussi faire par différence, parce que la loi des mailles, finalement, elle va aussi fonctionner avec... la puissance, puisque si je dissipe un watt et que je dissipe 800 milliwatts sur la première résistance, sur la deuxième, je ne peux que dissiper le reste, c'est-à-dire 200 milliwatts. Donc on peut le faire aussi par différence. Voilà. Et puis on peut aussi s'amuser à le faire pour toutes les formules qu'on a déjà vues tout à l'heure, c'est-à-dire avec P égale U2 sur R ou P égale R2. On va en faire la première avec R1 avec P égale U2 sur R. Donc P, R1, alors U2, donc c'est 8 au carré divisé par 80. Alors là quand même, on peut utiliser la calculette. C'est si vous êtes tordu. Hein. Et donc on fait 8 au carré. Mon carré, il est là. Et je divise par 80. Ah, si j'ai fait plus, ça ne va pas aller. Suppresse, divisé. Exé. Et encore, c'est arrivé encore comme ça. Ça m'énerve. Voilà. Et donc, c'est 8 multiplié par 10 puissance moins 1. Donc, si c'est 8 divisé par 10 puissance moins 1, ça me fait 0,8. Hein, je décale d'un cran ma virgule. Ma valeur significative, là, mon 8, il est un cran après la virgule. Puisque c'est moins 1. Pour ma deuxième valeur, donc je vais utiliser la deuxième formule, donc PR2 est égal à R, donc la résistance c'est 20, multiplié par l'intensité au carré, l'intensité c'est 0,1 au carré, et là, on peut utiliser la calculette si on veut, parce qu'au bout d'un moment, on peut être un peu perturbé, multiplié par 0,1 au carré, exé, et ça me donne encore ça, pourquoi ça ne garde pas en mémoire, cette saloperie, et donc, ça me donne 0,2, puisque c'est 2, 10 puissance moins 1. Donc 0,2 ou 200 milliwatts. Voilà, donc on a on a réparti notre puissance. Ok ? Donc on a vu toutes les formules qu'on peut utiliser. Et voilà, donc après il suffit de trouver la formule qui est la plus facile pour vous à trouver la solution, mais voilà, normalement les montages en série posent beaucoup moins de problèmes que les montages en parallèle qu'on va voir maintenant. J'efface tout ça. J'efface pas mes petits triangles parce qu'ils vont me servir encore. Voilà. Et je vais utiliser maintenant mon deuxième schéma. Je vais réutiliser les mêmes valeurs, 20, 80, et ici 10 volts. Alors j'ai été un peu haut. Je vais recadrer la caméra, voilà, et c'est encore passé dans le, je vais repousser un peu, voilà, donc on a notre montage qui est donc un montage maintenant à rater, c'est pour ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ah. Voilà. Alors, dans le cours, je les ai pas exactement mis dans le même, enfin, j'ai pas fait exactement le même schéma, mais c'est pas grave. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, premièrement, et c'est là qu'on va utiliser maintenant beaucoup plus la calculette dans le schéma en parallèle. On va calculer d'abord la résistance équivalente, RT. Là, j'ai deux solutions. Première solution, la formule, je dirais, simplifiée. Mais cette formule simplifiée, elle ne fonctionne, encore une fois, que pour deux résistances. Si vous en avez plus, c'est pas la peine d'utiliser cette formule-là. On va utiliser la deuxième formule. Mais comme ici, c'est un exemple simple, on va voir que c'est même trop simple. Donc la résistance équivalente, la formule simplifiée, c'est ce que j'appelle produit sur somme. Produit sur somme, c'est quoi ? Je fais le produit des deux valeurs, donc 20 multiplié par 80, et je divise par la somme, 20 plus 80. Ça, c'est égal à 80 fois 20, 160, et 20 plus 80, 100. Donc c'est égal à 16. Et donc la résistance équivalente de mon schéma, ici, c'est 16 ohms. D'accord ? Donc là, je vais pouvoir mettre 16. C'est-à-dire que la valeur équivalente de mon circuit, là, ça va être 16 ohms. J'ai une deuxième formule, qui va me donner le même résultat, évidemment, hein, sinon ça ne serait pas drôle. J'ai une deuxième formule, donc j'efface celle-là. Je n'ai pas eu besoin de sortir la calculette, là, parce que quand même, c'est relativement simple. Mais si vous avez des valeurs un peu plus compliquées, ça vaut le coup de sortir la calculette pour éviter de se planter, quoi. Là, ça vaut pas le coup. Alors, juste un truc, vous remarquez bien que cette valeur de 16 ohms, elle est plus petite que la plus petite des valeurs. Hein, c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait les formules la semaine dernière. Ah oui, c'est 16 000 et non pas 160, sinon ça marcherait pas. Merci, Zéronimo. mon 16 là, il est inférieur à la plus petite des valeurs. Et en fait, plus on va avoir ici une valeur importante, donc ici on a 80, mais si on passait par exemple à 500 ohms, on va s'apercevoir que plus on a une valeur ici importante, plus la valeur équivalente va se rapprocher de la plus petite des valeurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, le fait de rajouter une forte résistance comme ça en parallèle, ça va avoir très peu d'influence sur le courant, sur la résistance ou la conductance de l'ensemble, puisque l'intégralité du courant va passer par cette petite résistance. Et le fait d'avoir une grosse résistance en parallèle ne va pas changer grand-chose à la valeur. Voilà. Donc, important avoir une idée un peu de cette valeur équivalente. Si vous aviez trouvé, par exemple, une valeur aux alentours de 10 ohms, c'était pas normal. Parce que ici, vous avez une valeur de 80. Si vous aviez 20 et 25, vous allez vous retrouver à une valeur qui va être grosso modo divisée par 2. Pas exactement, mais ça va plutôt être aux alentours de 10, 11, 12. Et quand plus vous montez avec une valeur importante ici en parallèle, plus cette... La résistance équivalente va se rapprocher de la plus petite des valeurs, sans jamais l'atteindre, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est la première formule. Deuxième formule, c'est ce que, et qui va fonctionner aussi lorsque on a plus de deux résistances, parce que ça, ça ne fonctionne, je le dis, je le répète, et on ne le répétera jamais assez, que lorsqu'on a deux résistances. Si on en a plus, cette formule ne marche plus. Si on en a plus, on est obligé de le faire en deux fois. C'est-à-dire calculer cette première résistance équivalente, puis ensuite de rajouter la deuxième, la troisième résistance, et calculer donc la résistance équivalente de l'ensemble. Voilà, donc c'est un peu, on perd, évidemment, et si vous en avez 4, c'est encore pire. Voilà. La deuxième formule qui marche tout le temps, même si vous avez une quantité infinie de résistance en parallèle, c'est ce que j'appelle l'inverse de la somme des inverses. Elle est compliquée, celle-là. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? On n'a peut-être pas eu trop le temps d'expliquer. On voit ici que l'intensité totale, c'est égal à IR1 plus IR2. L'intensité totale qui va passer là-dedans, elle va se couper en deux. Une partie va passer dans R1 et une partie va passer dans R2, donc dans celle de 80 ohms. Donc on a bien cette équivalence. On a partout la même tension. Donc si je divise partout par U, U est égal à IT, est égal à U sur IR1, plus U sur IR2. Et vous remarquez que ça, U divisé par R1, U divisé par R2 et U divisé par I de R1, U divisé par I de R2 et U divisé par IT, tout ça, c'est ma résistance. Et donc, je peux dire que alors I est égal à, ou alors attendez, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tout diviser par U, pardon. On va y arriver. C'est l'inverse. Je divise tout par U, puisque c'est la même valeur. Ça revient au même. IT divisé par U est égal à IR1 divisé par U plus IR2 divisé par U. Je fais tout pareil partout. Et donc, ça, I sur U, c'est l'inverse de R. Donc, c'est 1 sur RT est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et donc, RT est là, et je fais donc l'inverse, c'est-à-dire que je fais à la fois, à la fin, RT est égal à 1 sur... Oula. J'ai écrit comme un cochon. 1 sur, j'ouvre ma parenthèse, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ça va peut-être pas passer à la webcam, ça. Si, c'est passé. Voilà, donc ma formule, ça va être ça. RT est égal à 1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et si on a plus de résistance en parallèle, eh ben on va rajouter, en fait on rajoute à chaque fois l'inverse. Et donc cette résistance équivalente, c'est donc l'inverse de la somme des inverses. Faut souvenir de ce truc-là, inverse de la somme des inverses. Et après, tout va bien. Donc, on va utiliser maintenant cette jolie formule, une fois qu'on l'a dite. Alors, tac. Alors, inverse de la somme des inverses. Donc, RT. Ah, si j'écris mal au départ, ça va pas aller. Donc RT est égal à 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 20 plus 1 divisé par 80. Voilà. Donc j'ai bien l'inverse, que je mets ici, de la somme des inverses qui sont ici. Je fais ça à la calculette. 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 20 plus 1 divisé par 80. Je ferme ma parenthèse et là je fais exé et ça me donne 1,6 10 puissance 1 et ça me donne bien 16. Alors ça semble compliqué comme ça, mais finalement à poser c'est assez rapide. Vous remarquez que les calculettes, compte tenu de l'ordre dans lequel on fait les calculs, on a besoin de ne mettre qu'une seule fois la parenthèse. Ici, après le 1 divisé par, et évidemment à la fin. Et si ça se trouve, même si je supprime la parenthèse de fin, je ne sais pas ce que ça fait, suppresse, ça marche aussi. Parce que la calculette va comprendre que c'est à la fin et donc il faut qu'elle ferme la parenthèse. Ça, c'est ma calculette, c'est pas certain que toutes les calculettes fonctionnent de cette manière-là. Donc, vérifiez bien quand même le fonctionnement de votre calculette. L'idéal, c'est quand même de fermer la parenthèse parce qu'il y en a certaines calculettes qui n'aiment pas qu'on oublie de fermer la parenthèse. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on a 1,6 10 puissance 1, donc ça me fait 16. Et on retrouve bien mes 16. Et encore une fois, si j'avais eu derrière une autre résistance, par exemple, je dis n'importe quoi, une autre résistance qui fait 25 ohms, on va le faire tout de suite. Hop. Et donc, à ce moment-là, je fais plus 1 divisé par 25. Je vais faire ma parenthèse parce que j'aime bien, je préfère. Et là, ça me donne encore un truc à la couillon. Alors là, ça me donne 9,756 ohms. Alors évidemment, c'est un chiffre qui est absolument pas rond, parce que j'ai mis n'importe quoi, donc voilà. Et vous remarquez que ça a encore diminué la valeur de la résistance. De la résistance totale, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est pour mon calcul de résistance équivalente. J'efface. Je l'ai bien noté. La résistance équivalente. Voilà. Alors, maintenant, répartition de tension. La répartition de tension, U total est égal à U de R1, est égal à U de R2. D'ailleurs, on peut s'amuser à le calculer, hein, puisque, alors attendez, comment on peut calculer ça? Non, de toute façon, on ne calcule rien du tout, puisqu'on voit bien la répartition de tension. Il n'y a pas de répartition puisque cette résistance-là était alimentée en 10 volts et celle-là aussi. Donc il n'y a pas de débat, c'est 10 volts partout. Donc c'est une tension uniforme. Il n'y avait rien, on n'a rien à calculer, là tout va bien. Et maintenant il n'y a plus qu'à calculer d'abord l'intensité et après la puissance. Alors, hop. D'abord l'intensité, donc l'intensité. Alors d'abord on va calculer l'intensité totale, tant qu'à faire, ça va être bien. IT. Alors I est égal à I qui est ici, je cache le I, et ça me donne donc I est égal à U sur R. U, 10 volts. R, comme je veux calculer l'intensité totale, c'est bien divisé par 16 qu'il me faut diviser. C'est bien l'intensité totale. Cette résistance totale, hein, donc la tension totale divisée par la résistance totale. Donc 10 divisé par 16, calculette. 10 divisé par 16, exé. Encore un truc à la couillon qui reste toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça me donne 0,625 ampères ou 625 milliampères. Généralement, c'est plutôt 625 milliampères qui va être présenté pour l'examen. Donc ça, c'est mon intensité totale. Donc l'intensité totale qui va passer ici, c'est 0,625. Et évidemment, je vais en avoir une partie qui va passer dans ma première résistance et une deuxième partie qui va passer dans ma deuxième résistance. Que va-t-il passer dans la première résistance, IR1? C'est quoi? Ça va être ma tension 10 volts divisé par ma résistance 20 est égal à 0,5 ampères. Donc sur mon premier réseau, ici, j'ai 0,5. Et sur la deuxième résistance, alors là il y a deux choix dans le calcul, soit on réutilise encore la loi d'Ohm, ou alors on le fait par différence. Et on va voir que c'est, heureusement, on trouve le même chiffre. Donc 10 volts, j'ai toujours 10 volts, et ma résistance 80 ohms. On, je fais 10 divisé par 80, égale 1 huitième, c'est-à-dire 0,125 ampères. Heureusement, j'ai bien mes 0,125 ampères, puisque 0,5 plus 0,125, ça me donne bien mes 0,625. Donc j'ai bien retrouvé mes petits. Voilà. J'ai bien retrouvé mes petits. Et vous remarquez que c'est dans la plus petite des résistances que passe la plus grosse tension. Et c'est normal. C'est la plus grosse conductance, entre guillemets. Hein, la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Et plus la résistance est petite, plus elle conduit, et donc plus elle laisse passer du courant. Voilà. Donc, ça fonctionne de cette manière-là. Et encore une fois, on a bien vu que quand on est dans un schéma en parallèle, on va plus utiliser la calculette que lorsqu'on est dans un circuit série. Voilà, c'est plus intuitif un circuit série qu'un circuit parallèle. Voilà, les calculs sont souvent plus compliqués, tout au moins moins intuitifs. Mais normalement, pour un circuit série, on utilise relativement peu la calculette. Et inversement, pour un circuit parallèle, on va plutôt l'utiliser. On va l'utiliser un peu plus. Donc ça, c'est pour l'intensité. Et dernière chose qu'il nous reste à calculer, c'est la puissance. Et là, la puissance, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va s'amuser à les prendre un peu dans n'importe quel ordre, puisque j'ai tout calculé déjà, j'ai déjà les intensités, les tensions, donc la résistance, donc tout va bien. La puissance totale. Puissance totale, c'est égal à la tension totale, donc U, j'en ai qu'une seule, c'est la tension totale, multipliée par l'intensité. Donc ça me fait 10 volts multiplié par l'intensité 0,625. Donc ça nous donne 6,25 watts. Vous remarquez que tout à l'heure, la puissance, c'était 0,1 watt. Donc vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes résistances en termes de grosseur pour faire un montage parallèle et un montage série. Il faudra faire très attention parce qu'en l'occurrence, la 0,625 watts, il faut se dire que la plus petite des résistances, c'est elle qui voit le plus d'intensité et donc celle qui va dégager le plus de puissance. Donc cette petite résistance de 20 ohms là, il va bien falloir faire attention à la grosseur de la résistance pour qu'elle puisse dissiper l'intégralité, puisque c'est là-dessus qu'on va avoir, sur cette résistance, qu'on va avoir le plus de puissance à dissiper. Tout à l'heure, dans mon petit schéma, les valeurs, elles étaient ridicules, hein, elles étaient inférieures à 100 mW, donc à peu près tout fonctionne. Voilà. Et comme dit Cyril, plus le barrage est ouvert, plus le débit d'eau est important. Voilà, c'est tout con, mais ça marche très bien. Et donc ça, c'est pour l'intensité. Pour la puissance, elle va être proportionnelle à l'intensité, puisque la tension, elle est fixe. Donc, si je fais PR1, alors, soit je dis... c'est inversement proportionnel à la valeur des résistances, et donc dans ce cas-là, c'est PT multiplié par 16 divisé par 20. Tout à l'heure, on avait fait l'inverse, hein, c'était R1 sur RT. Là, je fais RT sur R1. Et là, alors là, je sors la calculette quand même. 0,625 multiplié par 16 divisé par 20, exé, encore une fois ce truc là qui m'énerve, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas, .625, ah ouais d'accord, c'est, j'ai fait 0,625 alors que c'est 6,25. J'ai pris l'intensité et je n'ai pas pris la puissance. J'ai oublié de le noter. 6,25 watts. D'accord ? Donc, ma puissance, c'est 6,25 multiplié par 16 divisé par 20, exé, et là, ça me donne 5 watts. Donc, dans cette petite résistance de 20 ohms, elle va dissiper 5 watts. On peut s'amuser aussi à utiliser la loi d'Ohm, puisque PR 1 est égal à U2 sur R, donc U2 100 au carré divisé par 20. Donc ça, 10 au carré, ça me fait 100, divisé par 20, ça me fait 5. Autre solution, je peux faire aussi P égale RI2. PR1. Alors, P égale RI2, R20, multiplié par 0,5, multiplié par 0,5. Et encore une fois, ça doit faire 5. Alors, 20 multiplié par 0,5, multiplié par 0,5, exé, et ça me donne 5. Voilà, on peut le faire dans tous les sens qu'on veut, ça va toujours marcher. Évidemment, ça va fonctionner aussi de la même manière avec R2. On va pas faire les calculs, mais on voit bien que tout ça, ça va fonctionner exactement de la même manière. Voilà, donc on peut s'amuser à faire des tas de calculs dans tous les sens pour essayer de s'exercer à la calculette. Et encore une fois, c'est voilà, on se sert beaucoup plus de la calculette quand on est dans ce genre de circuit en parallèle, en dérivation, parce que voilà, les opérations sont peut-être un peu moins naturelles. Voilà. Boum. Je vais revenir sur le PDF. Voilà. Donc, là, on a vu donc tous les exercices possibles et imaginables autour de des circuits parallèles et séries. Il y a beaucoup, beaucoup de questions d'examen qui vont tourner d'ailleurs la plupart du temps autour de l'intensité, de la tension et de répartition tension-intensité, essentiellement d'ailleurs sur des circuits séries et non pas parallèles. Voilà, la majorité des questions vont être posées autour de ça. Donc, tant mieux, on ne va pas se plaindre. Mais voilà, il y a aussi quelques questions sur les circuits parallèles. Et donc, voilà, ça serait dommage de passer à côté de points faciles. Autre type de questions, ce sont ce qu'on appelle des réseaux complexes. Et les réseaux complexes, c'est quoi ? C'est un ensemble de résistances qui sont montées plus ou moins, de manière plus ou moins compliquée, en série et en parallèle à la fois. Et donc, la question systématique, c'est quelle est la résistance équivalente de cet ensemble ? Et comment fait-on ? Eh bien, en fait, on va calculer des résistances équivalentes, d'abord d'un circuit le plus élémentaire, en rajoutant à chaque fois autour des valeurs de résistance. Voilà, donc on va utiliser la formule des circuits séries et la formule des circuits parallèles. Alors, quelquefois, les schémas, ils sont pas très explicites, et vous allez voir, il y a des schémas en particulier qu'il faut bien regarder comment c'est fait, parce que, évidemment, il y a des pièges. Et donc, il ne faut pas hésiter à redessiner un schéma, tout au moins, alors peut-être pas sur la feuille de papier, mais dans sa tête, pour essayer de le comprendre et de bien voir comment il fonctionne. Exemple, alors ça c'est facile, le premier, il est relativement facile. On va d'abord calculer cette résistance équivalente ici, hein, de 100 et de 150, et puis cet ensemble, une fois qu'on aura calculé cette résistance équivalente, eh bien on va l'additionner ici à la valeur de cette troisième résistance, puisque on va être après dans un circuit qui va être en série. Hein, d'abord, premier calcul parallèle, deuxième calcul en série. Alors, donc vous avez vu, 100 et 150, on va le faire à la calculette, avec les deux manières, c'est-à-dire soit produit sur somme, soit inverse de la somme des inverses. D'accord ? Donc je reviens sur ma webcam. Qui a bougé un peu. Il n'est plus dans l'axe. Donc, 100 et 200 et 150. Donc, produit sur somme. Produit. Alors, je peux le mettre comme ça. En revanche, quand je divise après, je suis obligé de mettre une parenthèse parce que derrière, c'est une addition. Et donc, si je fais une addition, je suis obligé de mettre des parenthèses pour dire à la calculette, tu commences déjà par me faire ce calcul-là. Et après, tu feras l'ensemble. Et donc, 100 plus 150. Voilà. Donc ça, c'est ma formule simple, ce que j'appelle, moi, produit sur somme, c'est la plus simple. Exé. Et ça me donne 6 10 puissance 1 donc 60. 60, n'oublions pas qu'on a la résistance de 40 ohms derrière en série, donc en fait il suffit de rajouter 40. Plus 40. Et ça me fait 100 ohms. D'accord ? Donc tout ça pour ça. Hein. Un superbe truc compliqué pour faire une résistance de 100 ohms. Voilà, qu'on ne devait pas avoir, je suppose, dans ces tiroirs. Trouver une résistance. Alors la 100 et la 150, c'est des valeurs normalisées. La 40, elle n'est pas normalisée comme résistance. C'est 39, hein, la normalisée. Donc peut-être que dans les échantillons de résistance à 39 ohms, on en a une qui était pas pile poil à 39, mais à 40, et donc on l'a trouvée. Voilà. Mais ça c'est histoire de blaguer un peu. Autre manière de faire les choses, on va utiliser l'inverse de la somme des inverses. Donc, je fais l'inverse de la somme des inverses. 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 100, plus 1 divisé par 150. Je ferme ma parenthèse. Alors, je ne sais pas si ça passe bien à la webcam, mais la différence entre le plus et le divisé, je ne suis pas certain que ce soit très visible à la webcam. Donc, ne vous plantez pas, faites bien un divisé, c'est 1 divisé par, hein, et ce n'est pas 1 plus. Je fais exécuter, et au miracle, ça me donne encore 6 10 puissance 1, donc 60. Encore une fois, je rajoute mes 40 pour me faire mes 100 ohms. Vous voyez que je passe d'un côté ou de l'autre, ça fonctionne de la même manière, et je passe autant de temps à faire une formule que l'autre. Hein. Quand on a des valeurs assez... pas aussi évidentes, enfin, des valeurs un peu quelconques, on passe autant de temps à le faire dans un sens que dans l'autre. Donc c'est pour ça que je dis pensez à utiliser l'inverse de la somme des inverses, parce que comme ça, vous l'aurez en tête, y compris quand vous aurez trois résistances en parallèle. Donc voilà, premier exercice. Deuxième exercice, ça c'est le réseau complexe numéro 2, qui est là, il est un peu plus tordu, parce que on se dit, en fait, ce ne sont que des résistances, que en tout, hein, il y a 7 résistances, comment elles sont foutues. Eh bien, quand on regarde ici, là, il n'y a pas de contact ici, et là, il n'y en a pas non plus ici. Ce qui veut dire qu'on a ici 5 résistances qui sont en parallèle, puis 2 résistances ici qui sont en série. Hein. Ici, vous avez un ensemble de résistances qui sont en parallèle, ou en série, comme on veut. Puis, à la suite, on a 2 résistances en série. Donc, et évidemment, à l'examen, une des réponses va être 10 divisé par 7. Hein, puisque quand on a des résistances en parallèle qui ont la même valeur, on prend la valeur de la résistance que l'on divise par le nombre de résistances du circuit. Donc là, en l'occurrence, ici, j'en ai 5 qui sont en série. Et donc, je fais 10 divisé par 5, ça me fait 2. Et ce 2, je l'ajoute ici à mes 2 résistances qui sont en série. Donc ici avec 20. Et ça me donne 2 plus 20, ça me fait 22 ohms. Au passage, une résistance de 22 ohms, ça existe dans les valeurs standards. Donc on s'est aussi un petit peu peut-être embêté. Enfin voilà. On a fait un superbe truc, parce qu'on n'avait que des résistances de 10 ohms qu'on avait eues pour pas cher dans un lot. Voilà, donc... Et évidemment, dans les questions d'examen, on va vous proposé comme réponse, qui est fausse, 10 divisé par 7. Alors, je sais pas combien ça fait, 10 divisé par 7, ça donne pas un nombre rond. Évidemment, ça sera une valeur qui sera arrondie. Mais voilà, histoire de vous perturber. Pour ceux qui auraient pas remarqué ici qu'il y avait le manque de contact qu'il y avait ici et ici. Et c'est pour ça que je vous dis, éventuellement, il faut redessiner le circuit. Voilà. Il y a quelques questions comme ça sur des réseaux complexes. Il y aura des réseaux complexes aussi quand on va faire tout à l'heure les questions d'examen. Il y en aura d'autres. Une des questions assez fréquentes aussi, c'est sur les ponts de Wheatstone. Un pont de Wheatstone, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu quand on avait ça doit être le premier cours sur les résistances, où on avait vu ce montage un peu particulier, où on a deux branches ici, donc on a une branche avec 4 ohms et 20 ohms, et une deuxième branche avec 80 ohms et une résistance à calculer, de telle manière qu'il n'y ait pas d'intensité ici entre les deux branches. Si on met un fil ici et qu'on met ici un ampèremètre, on ne doit pas voir d'intensité. Pourquoi ? C'est que on n'a pas de tension. En fait, l'idée, c'est comment faire en sorte que mon pont soit équilibré, et un pont équilibré, c'est un pont qui a la même tension d'un côté que de l'autre. Et comme on a la même tension d'un côté que de l'autre, ben si on met un fil, eh ben, il ne se passe rien puisqu'il y a la même tension. Quand bien même, ici, on est alimenté. Alors évidemment, si on n'alimente pas, on est certain de ne pas avoir d'intensité. Ça, tout va bien. Mais à partir du moment où ici, on a une tension positive ou négative, hein, je m'en fous, mais où on a une tension, automatiquement, si le pont ici n'est pas équilibré, c'est-à-dire si on n'a pas la même tension de chaque côté, eh bien, on va avoir une intensité. Or là, on me dit, avec ce schéma-là, en me disant I égale 0, ça veut dire que mon pont est équilibré. On peut aussi écrire, sans mettre de fil, là, une flèche qui indique la tension et qui indique que U égale 0, donc tension égale 0, ou encore une fois, on peut aussi le mettre dans la question quelle est la valeur de la résistance R2 pour que le pont soit équilibré. Voilà. Et donc, comment le pont est-il équilibré ? Eh bien, lorsqu'ici, les valeurs des résistances sont proportionnelles. C'est-à-dire qu'on va avoir une valeur proportionnelle entre mes deux résistances-là, et la même proportionnalité, ici, entre ces deux résistances-là. Et comment ça se calcule ? Eh ben, c'est le fameux produit en croix qu'on avait vu quand on avait fait les rappels de mathématiques et d'algèbre. Le produit en croix, c'est donc... R2, c'est ma fameuse résistance ici à calculer. Le produit en croix, c'est le produit de la deuxième diagonale. Donc ici, c'est la première diagonale, celle où il y a la valeur que l'on cherche. La deuxième diagonale, c'est... Bah, la deuxième, justement. Donc c'est 80 multiplié par 4, et on divise par la valeur opposée, c'est-à-dire 20. Donc 80 multiplié par 4, ça me fait 320. 320 divisé par 20, ça me fait 16. Voilà, mais vous pouvez le faire à la calculette. Ça, par contre, si vous n'êtes pas à l'aise... Je comprends, avec des chiffres comme ça, que vous utilisiez la calculette. Voilà. Et donc, la valeur, là, c'est 16 ohms. Alors, autre manière un peu plus empirique, Mais ça, c'est à vous de voir si vous vous sentez à l'aise ou pas. On voit ici que la résistance de 20 ohms est 5 fois plus élevée que la résistance de 4 ohms. Ou inversement, la résistance de 4 ohms, elle est... la résistance de 4 ohms est 5 fois plus faible que la résistance de 20 ohms. Donc pour que j'ai quelque chose qui soit proportionnel, ici, il faut que ma résistance R2 soit 5 fois plus petite que ma résistance de 80 ohms. Et donc je fais 80 divisé par 5, et ça me donne 16. Enfin, et ça c'est aussi intéressant, c'est que si ça marche, la proportionnalité, si ça marche ici verticalement, ça va marcher aussi horizontalement. C'est-à-dire qu'ici, on voit 80 et 20, donc on a ici 4 fois plus sur 80 que sur 20, enfin une résistance 4 fois plus importante sur ce premier réseau par rapport au deuxième, et donc on va avoir la même, le même rapport de proportionnalité. Ici, on va avoir, donc si on a 16, qu'on vient de calculer, 16 par rapport à 4, on a bien 4 fois plus de résistance aussi dans ce sens-là. Donc ces rapports proportionnels, ça marche verticalement et horizontalement. Ça marche dans les deux sens. Voilà, donc là, alors, l'utilisation d'une calculette, là, ça peut être utile, mais en fait, il faut plutôt regarder quelles sont les réponses qui seront proposées, parce que souvent, dans les réponses proposées, on va vous proposer, par exemple, on ne pourra pas avoir une résistance sur R2 qui soit supérieure à celle ici de 80 ohms. Puisque on voit bien celle-ci est inférieure. Donc ça peut pas être 100 ohms, par exemple. Voilà, donc il y a des tas de réponses qui pourront facilement être éliminées. Puisque on voit bien que intuitivement on doit avoir un rapport ici de 5 dans ce cas-là et de 4 dans l'autre sens. Voilà. Je vois plus beaucoup de dialogue ici sur le chat. J'ai un peu peur que d'avoir perdu du monde. Je regardais si tout le monde avait bien, si j'avais pas loupé de message, mais soit tout le monde s'est endormi, ou alors tout le monde regarde comment fonctionne sa calculette. Hachi. Exemple numéro 2, c'est des questions qui sont assez récurrentes, et ces questions assez récurrentes, elles vont toujours tourner autour de ici du calcul de l'intensité, alors soit dans une branche ou l'intensité totale ou voilà, mais c'est toujours un système ici avec un pont diviseur, ce qu'on appelle ici ça s'appelle un pont diviseur, ce truc là et donc avec des valeurs, et on cherche à calculer l'intensité. La plupart du temps c'est l'intensité. Il y a eu quelques calculs aussi autour de la résistance ou de la tension, mais la majorité des questions tournent autour de l'intensité. Et donc, par exemple, là, on va demander quelle est l'intensité qui passe dans la deuxième résistance, dans la résistance de 5 kΩ. Et donc, voilà, avec ces éléments-là, on va passer un peu, on passe du temps, et... Donc c'est peut-être des questions à se garder pour la fin, en se disant, si j'ai un peu de temps encore, j'essaye d'y répondre. Parce qu'elle n'est pas aussi évidente que ça. Donc la première chose, c'est calculer ici l'intensité totale qui va passer ici dans mes deux résistances, et c'est donc l'intensité qui va passer dans la résistance ici du haut, qui est là. Quelle est cette intensité? Eh bien, c'est I est égal à U sur R, U 24 volts, R 2000. Donc je fais 24 divisé par 2000, et ça me donne sur ma calculette 0,012. Je préfère le faire à la calculette, parce que se tromper d'un 0, ça va très vite. Et donc, je vous conseille plutôt de le faire à la calculette. Et une fois qu'on a ce 12 milliampères, finalement, hein, parce que c'est 0,012, c'est 12 milliampères, déjà on va regarder les réponses que nous propose l'ANFR. Peut-être que déjà on va avoir des valeurs qui vont être supérieures à 12 milliampères. Celles-là, on va les ignorer puisque de toute façon, à la suite, il ne peut y avoir que moins de 12 milliampères puisque j'ai déjà 12 milliampères là-dedans qui vont se séparer en deux. Et donc, après, séparer en deux comment? Je dirais qu'il y en a un tout petit peu plus de la moitié qui va passer ici et dans la plus petite des résistances, et le reste qui va passer là. Voilà. Donc, déjà, il faut qu'il y ait au moins 12 milliampères, et même, compte tenu ici de la valeur, il faut ne conserver que les valeurs qui sont en dessous de 6 milliampères, c'est-à-dire la moitié. On sait qu'il y aura plus de la moitié ici. Donc systématiquement, il y aura moins de la moitié ici. Et vous allez voir que, en raisonnant juste comme ça, sans aller plus loin, je pense que vous pouvez avoir qu'une seule réponse possible. Et si on a deux, eh ben on continue un peu les calculs. Et on continue les calculs comment? Eh bien, on calcule ici la résistance équivalente et on répartit les 12 milliampères inversement proportionnellement à la valeur des résistances. Alors, pour calculer la résistance équivalente, là, on fait donc 3 fois 15 divisé par 8. Alors ça, vous le faites à la calculette, parce que de tête, voilà, peut-être pas des trucs. 16 divisé par 8, ça va. 15 divisé par 8, c'est un peu plus compliqué. Donc ça fait un tout petit peu moins de 2, comme on pourrait s'en douter. C'est du kilo-ohm, évidemment. Et ensuite, quelle est la valeur qui passe ici dans RT? Eh bien, donc c'est mes 12 milliampères multipliés par la valeur totale, 1,875, et divisé par 5000. Et donc ça me donne 4,5 milliampères. C'est bien ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que c'est un peu moins de la moitié des 12 milliampères. Voilà. Donc, encore une fois, lors de l'examen, compte tenu des réponses proposées, souvent, il n'y a qu'une seule réponse possible, sans être obligé de faire le calcul. Vous regardez, hein, évidemment. Et s'il y a deux réponses possibles, si vous avez, par exemple, 3,5 milliampères et 4,5 milliampères, bah, vous êtes obligé de faire le calcul. Parce que là, à vue de nez, c'est assez difficile à définir. Mais encore une fois, la plupart du temps, il n'y a qu'une seule réponse quand on a éliminé les réponses tordues. Enfin, tordues, qui cadrent pas avec le résultat attendu. Un autre type de pont diviseur, donc là on a une résistance, on n'a même pas la valeur de la résistance, ni d'ailleurs R1, mais qu'on va avoir à calculer. On a juste cette ici valeur d'une résistance avec 12 volts, et ici 300 mA qui passent dans l'ensemble du circuit. Si on a donc, première question, évidemment, à l'examen, c'est l'une ou l'autre. Hein, c'est calculer I de R1 ou R1. On n'a pas les deux. Je le dis, je le répète. Mais voilà, on n'a qu'une seule question. Là, Cet exemple m'a permis d'en faire deux, mais évidemment, on n'en a qu'une seule le jour de l'examen, soit l'un, soit l'autre. Donc, le calcul de l'intensité dans R1, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'intensité totale, mais 300 mA, moins ce qui passe ici dans la résistance R1. Et qu'est-ce qui passe ici dans la résistance R1 ? I est égal à U sur R, donc 12 divisé par 100, et donc ça me fait 120 mA. 120 mA qui passe ici, donc il me reste à passer dans R1 180 mA par différence. Et à partir du moment où j'ai cette valeur d'intensité dans R1, je peux calculer la valeur de R1 puisque j'ai l'intensité, mais j'ai aussi la tension. Mes 12 volts, ils sont toujours là. Et ces 12 volts, c'est aussi la tension que j'ai sur R1. Et donc, dans ce cas-là, R est égal à U sur I, U 12 volts, I 180 mA, donc 0,18. Et donc, je fais 12 divisé par 0,18. Et ça me donne donc 66,7 ohms. Puisque j'ai ou 0,667 kilo-ohms. Enfin, je vois pas pourquoi j'utiliserais des kilo-ohms, mais bon, pourquoi pas. Alors, pourquoi dans la résistance R2 ? Bon, je ne comprends pas la question de Fab, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà les questions qui peuvent être posées à l'examen. Ça fait aussi partie des questions assez fréquentes. Voilà. Et vous remarquez que ça ressemble toujours un petit peu à ce schéma-là, c'est-à-dire une résistance, dont la valeur est connue ou pas, et deux résistances ici en dérivation. Dernier exemple, c'est le réseau complexe. Et là, il y en a... Alors, j'en ai pas vu dernièrement. J'en ai vu pas mal... Il y a de ça quelques temps, enfin il y a 5-6 ans. Je pense qu'il y en avait un grand nombre qui avait été rajouté. Et puis pourquoi ? Alors c'est moi qui ai mal écrit ma valeur. Ouais, R2, oui, parce que R2 ici, oui, c'est ma deuxième résistance. Hein, c'est pour ça que j'appelais ça. J'ai oublié de dire que cette résistance-là de 100 ohms, c'était ma résistance R2. Voilà. J'ai compris maintenant la question. Donc mon réseau complexe, l'idée là, c'est essayer de faire mon circuit. On va le faire à la main. Ouais, il fait soif, moi aussi j'ai soif, j'en ai marre de parler. Je vais faire le schéma sur... On va le faire à la webcam, ça sera plus facile. Donc 150, 250. Voilà. Comme ça. Ensuite ici... 75. Ici, 100. C'est un peu n'importe quoi, mon schéma. Mais bon, c'est pas grave. 30. Ici, 80. Et ici, c'est relié comme ça. On va y arriver. Est-ce que c'est propre ? On y arrive, c'est bon. Donc je vais mettre mes résultats intermédiaires au feutre rouge. Donc le premier ensemble, c'est celui-là. J'ai un deuxième aussi que je pourrais imaginer ici. Hein, j'en ai deux finalement qui sont des ensembles simples. On va commencer par celui-là, par 150 et 250. Je prends ma calculette. 150 fois 250 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 150 plus 250. Je ferme ma parenthèse. Exé, et ça me donne encore un chiffre à la noix. 9, 365, 10 puissance 1. Donc ça me donne 93,75. Alors je ne sais pas si ça passera bien à la webcam, mais voilà. Moi j'arrive à retrouver mes chiffres, c'est le principal. Deuxième, on peut utiliser celle-là. Là j'utilise pas la calculette quand même. 30 plus 80, ça me dit 110. Ça c'est facile. Mais 93 plus 75, ici, je fais plus 75, exé, ça me donne 169, avec mes arrondis, hein, parce que évidemment, je retire, sinon ça me fait précisément 168,75. Mais je garde pas tout ça. Je garde 169 qui me suffit largement pour le besoin de l'exercice. Donc ce 169, ben ça va être l'ensemble ici avec mon 110 que j'ai. Donc 169, je fais réponse multiplié par 110 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, réponse plus 110. Là, je fais peut-être des trucs un peu tordus pour vous, mais n'oubliez jamais cette touche réponse qui rappelle en fait le dernier calcul que vous avez fait. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça vous évite comme ça des fois de ressaisir des chiffres. Ok ? Je fais exé. Ça me donne encore un chiffre à la noix. Et ça me donne donc 6,659 10 puissance 1. Donc 66,6. Et j'ai en plus ma résistance ici 200 ohms. Et ça me donne 166,6, que j'arrondis donc à 167, puisque dans mes réponses, j'ai 167 qui est ma réponse arrondie. Voilà, donc pour bien, voilà, alors faut avoir un, faut se faire son petit schéma, pas se planter, voilà, donc... Il y a un peu à réfléchir avec ce type de schéma. Je reviens sur le PDF. On va voir quelques questions d'examen. Donc, on va les faire à la calculette. On va voir si on peut les faire à la calculette simplement. Voilà, j'ai nettoyé mon tableau blanc. Donc la première question, donc j'ai deux résistances en série, une valeur que je connais, 1 kilo ohm, 2 milliampères, une résistance R2 qui n'est pas donnée, en revanche j'ai la tension sur la valeur, sur la résistance R2, et on me demande la tension totale. Alors, la tension totale, c'est donc l'attention sur R1 plus l'attention sur R2. L'attention sur R1, on va pouvoir la calculer puisqu'on a la résistance et l'intensité. Donc R est égal à U sur I. U égale à RI, tout simplement. U est égal à RI. Alors, ici, on a des kilo-ohms et des milliampères. Je les multiplie et donc ça s'élimine. Les kilos multipliés par les milli, pour ceux qui commencent à faire un petit peu de calcul de tête, ça s'élimine et donc on se retrouve à l'unité. Donc, si je fais 1 kilo-ohm multiplié par 2 milliampères, ça me donne 2 volts. 2 volts qui sont donc ici, plus ici ma tension ici de 3 volts, en tout, ici, j'ai donc 5 volts. Et ça tombe bien, j'ai une valeur qui fait 5 volts. Vous remarquez qu'au passage, il y a la valeur 2 volts. Au cas où il y ait des gens qui oublient de rajouter ici la tension de 3 volts, ils ont calculé leur 2 volts, ils ont fait leur premier calcul, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de la question. Les autres 6 volts et 9 volts, je ne sais pas trop comment on peut les obtenir, mais peu importe. C'est pas bon, et c'est la 5 volts qui est bon. Valeur de la résistance R. Donc là, j'ai une valeur, une tension de 6 volts. Ici, une tension de 3,3 volts. Donc ici, j'ai... comment je vais faire là? Donc il va falloir que je m'amuse à calculer l'intensité. L'intensité, donc ici, si j'ai 3,3 volts, ici j'ai 2,7 volts. 2,7 volts, et ici j'ai 2,7 kΩ, donc j'ai 1 mA qui passe dans mon circuit. 1 mA qui passe dans mon circuit, donc ici 1 mA, I est égal à U, qu'est-ce que je cherche? La résistance là, R est égal à U sur I, U 3,3 volts divisé par I 1 mA, donc 3,3 kΩ. Voilà, donc j'ai pas utilisé ma calculette, c'est peut-être pas bien, j'ai peut-être perdu du monde, mais voilà, ça c'est quelque chose, ça ce sont des questions qui doivent facilement vous devez être à l'aise avec ce genre de choses, d'autant plus que ça c'est un circuit série. Donc 3,3 kΩ, ou, évidemment les 3,3 n'existent pas, enfin n'est pas proposé, c'est 3300. Alors 6 - 3,3, ça me fait 2,7 volts dans 2,7 kΩ. Ouais, exactement. Et donc 2,7 kΩ, enfin 2,7 volts dans 2,7 kΩ, ça me donne bien 1 mA. Et ce 1 mA, je le reporte ici sur ma résistance à calculer, et R est égal à U sur I, donc 3,3 divisé par 1 mA, et ça me donne donc 3,3 kΩ ou 3300 ohms. Voilà. C'est un peu... Voilà, faut maniper. Je n'ai pas sorti ma calculette, mais faut savoir jongler avec toutes ces valeurs-là. Et je comprends qu'au départ, c'est pas du tout évident. Ça, je le conçois tout à fait. Résistance équivalente. Résistance équivalente. Donc ici, on a 8 et 2. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, 8 et 2, c'est tout à l'heure, c'est des valeurs assez classiques, ça. 8 et 2, ça donne 1,6. Et donc, en résistance équivalente, donc 1,6 plus 0,4, ça me donne 2. On peut le faire à la calculette, on l'a fait il n'y a pas longtemps, on va retrouver le même résultat. On peut le faire et le faire aussi avec la méthode de l'inverse de la somme des inverses. Alors, tac, on. Donc on peut faire 8 fois 2 divisé par 8 plus 2, ou divisé par 10 indirectement. Exé, et ça me donne donc à 1,6 10 puissance 0, donc 1,6 ohms. Ou alors, autre manière aussi, l'inverse de la somme des inverses, donc 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 2 plus 1 divisé par 8, je ferme ma parenthèse, exé, et ça me donne aussi 6 cinquième, c'est-à-dire 1,6 10 puissance 0. Faudrait que je vois comment on peut le mettre directement avec un affichage de cette manière, ce qui commence à m'énerver un petit peu. Voilà comment on arrive au résultat. Encore une fois, attention à la webcam parce qu'on voit pas trop la différence entre le plus et le divisé. Ne pas confondre les deux, évidemment, ça donne pas du tout le même résultat. On revient sur le PDF. Hop, allez, vas-y. Donc 3300 ohms, 2 et 5 volts. 2 ohms et 5 volts, pardon. Un pont de Wheatstone, alors là, qui est dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas monté verticalement, il est monté horizontalement, mais ça va marcher exactement de la même manière. C'est toujours des rapports proportionnels. Donc ici, ça va être, la valeur ici, ça va être 6, 2 fois 3, 6, divisé par 1, ça me fait 6. Donc ici, je vais avoir une valeur qui fait 6 kΩ. Là, on a mis intensité égale 0, mais encore une fois, on peut avoir aussi tension égale 0. C'est exactement pareil. Ce qui n'est pas marqué, là, c'est si c'est alimenté. Et évidemment, si c'est pas alimenté, eh ben, on aura toujours 0, quelle que soit ici la valeur de la résistance. Et là, le principe du pont de Wheatstone, c'est qu'il est alimenté d'un côté ou de l'autre. Enfin, il y a une tension plus, une tension moins, pour que ça veuille dire quelque chose. Voilà, et donc, ou alors, autre manière aussi de voir les choses, ici on voit bien qu'il y a une valeur qui est deux fois plus importante ici qu'ici, donc la résistance à trouver ici doit être deux fois plus importante que celle de 3 ohms, donc ça me fait 6 kΩ, ou inversement dans l'autre sens, ici, on a un rapport de 1 à 3, et on devra avoir le même rapport de 1 à 3 pour passer ici de 2 à 6. Et donc, on arrive encore à B, 6 kΩ. Voilà. Une autre question, encore dans le même genre que ce que l'on a vu dans les exercices. Donc là, ici, on va avoir à calculer l'intensité dans la résistance R1. Donc, ici, on va avoir 10 volts et 1 kΩ, donc on va avoir 10 milliampères. Je ne sors pas ma calculette hein, quand même. 10 divisé par 1000, ça me fait donc 10 millièmes, et donc 10 millièmes, c'est 10 milliampères. 10 milliampères, comme j'ai déjà 15 milliampères ici, on va ici passer dans R1 5 milliampères. Voilà, c'est pas des questions très compliquées, j'ai même pas eu besoin de sortir ma calculette là. Mais vous remarquez que donc 5 milliampères, les voilà là, vous ne pouvez pas, enfin les 10 milliampères, ça c'est au cas où vous auriez calculé que cette valeur là et que vous en êtes qui arrivait arrêté là, sans aller jusqu'à donner l'intensité dans R1. Donc ça, c'est bien mes 10 mA. 50 mA, c'est absolument impossible, puisque on n'a que 15 mA au départ. Donc ici, ils vont se couper en deux, et c'est impossible qu'il y ait 50 mA. et le 0,5 mA, c'est si des fois vous vous plantiez dans le calcul ici, enfin je ne sais pas trop comment vous feriez d'ailleurs, mais se tromper d'un zéro. Et enfin, dans le même acabit que ce circuit-là, avec ici on demande une tension. Alors là, c'est un peu plus tordu. Donc ici, on a 5 mA et 3000 ohms. Donc ici, ça me fait une tension qui fait 15 volts. 15 volts, mais du coup, ici, il faut que je calcule aussi l'intensité qui passe dans ma deuxième résistance pour calculer ici la chute de tension dans ma résistance là. Donc c'est un truc à plusieurs niveaux. Donc ici j'ai 15 volts, ici je vais avoir combien 15 volts, donc j'ai 7,5 milliampères. Donc ça me fait 7,5 plus 5, ça me fait 12,5 milliampères. 12,5 milliampères ici sur 1000 ohms, ça me donne 12,5 volts. Plus les 15 volts que j'avais là. Donc il faut avoir un petit bout de papier pour faire son... on va le faire à la webcam, ça va être plus simple, parce que sinon je vais perdre tout le monde. Alors, sans être obligé de sortir la calculette hein, quand même. Donc 1000. Donc j'ai deux résistances. La première ici, qui fait 2000. La deuxième ici qui fait 3000. Ici j'ai 5 milliampères. Donc là j'ai dit ma tension ici. U est égal à RI. R 3000. I, 5 milliampères. Donc ici, j'ai 15 volts. D'accord ? Maintenant, il faut que je calcule ici l'intensité. L'intensité, ici, ça va être quoi ? I est égal à U sur R. U, 15 volts. R, 2000. Donc ici, j'ai 7,5 milliampères. Donc ici, j'ai 12,5 milliampères. Et donc, ici, j'ai 12,5 volts. Et quand je fais l'addition de mes 15 volts et de mes 12,5 volts, en tout ici, j'ai 27,5 volts. Et ça tombe bien, ça fait partie des réponses qui sont proposées. Voilà, je reviens sur mon PDF. J'espère que vous avez bien suivi mon raisonnement. C'est assez long quand même, hein. Donc ça fait encore partie des questions qu'il faut se garder pour la fin, au cas où voilà, il manque des points. C'est des questions qui ont perdu du temps à y répondre. Donc vaut mieux se les garder pour la fin. Et puis bah, si on a du temps, bah, on assure le score, je dirais, en faisant ce genre d'exercice. Voici les réponses. Voilà, et on en arrive à la manip de la soirée, ce qui fait la fin de... Alors, la manip de la soirée, ça va tourner autour d'un pont de Wheatstone. Donc, j'ai un pont de Wheatstone avec 3 résistances, 12K, 8,2K, 6,8K, kilo-ohm à chaque fois. Donc c'est des résistances normalisées, c'est pour ça que c'est des valeurs un petit peu bizarres. C'est des valeurs normalisées. Et donc là, j'ai aussi une résistance variable qui est là, et je vais faire en sorte ici que, alors non pas que j'ai une intensité nulle, j'ai une intensité nulle, mais aussi ça veut dire que j'ai une tension nulle. Alors là en l'occurrence, j'ai pas monté mon multimètre en ampèremètre, je l'ai monté en voltmètre, mais si je le changeais et que je le mettais en ampèremètre, ça fonctionnerait de la même manière. D'accord ? Et donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte que ma résistance variable, elle permette d'avoir la même tension d'un côté et de l'autre. D'accord ? Donc je vais mesurer au voltmètre. Et une fois que j'aurai cette valeur, je vais essayer de la calculer et puis de la mesurer, voir si mes calculs sont bons ou pas. Donc on va se mettre sur la webcam. Je vais ramener tout le matériel ici devant. Alors si ça veut bien venir. Voilà, hop, allez, voilà. Donc, présentation un petit peu de tout mon bordel, là. Je perds mes stylos. Alors, petite pile. Ici, je branche ma pile. Voilà, ma pile est branchée, je mets mon voltmètre en route. Voilà, alors est-ce qu'il est... Et bien voilà, ça merde encore, comme toujours. Alors, qu'est-ce qui va pas? C'est pas normal qu'il m'annonce une telle tension. Hein, parce que là, normalement, j'ai 9 volts entre là et là. Allez, viens là. Alors, si je les ai pas, c'est que... Ah bah, je les ai pas. Ça commence mal, là, mon histoire. Commence mal. Alors est-ce qu'il est bien branché? Il est bien branché. C'est bien branché. Alors pourquoi ça merdoie? Ah là c'est bon. Là j'ai bien mes 9 volts. Donc c'est celui-là. Voilà. Là j'ai bien mes 9. Ah non, je les ai pas. Voilà. Alors maintenant, est-ce que je me mets là? Là, il y a des problèmes. Hein. Ça y est. Faut appuyer le bon. Faut appuyer dessus. Hein. Non. Problème de connexion auparavant. Allez. Le deuxième, est-ce que le deuxième il est bon? Ça me semble bien. Et donc maintenant je fais là changer la valeur ici de mon potentiomètre, je change la valeur de tension sur mon potentiomètre. D'accord? Maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est faire en sorte que la tension ici, soit devienne 0. C'est là que ça se complique. Eh ben, ça y est, il est encore débranché. Voilà. Non. Il y a des problèmes de connexion. Hein. Non, 536, c'est pas bon. Eh bien, on va avoir du mal ce soir, je sens. Je sens qu'on va avoir du mal. Je vais changer de picot parce que je sens que c'est le picot qui me pose problème. Il faudrait que j'investisse dans un système soudé. Parce que au moins ça poserait moins de problèmes. Là, je débranche donc du coup ma résistance, que je la mette en série. Allez, mets-toi dedans. Hop, évidemment tout est tombé. Comme toujours. Alors, ici et ici. Voilà. Alors si je... Ouais, ça marche. Alors maintenant, ici j'ai donc 126 millivolts. Il faut que j'arrive ici à 0. J'étais trop loin, maintenant j'ai une valeur négative. Positive, négative. Ah, 13,4 millivolts. 41,2. Voilà, c'est très très... pointu, hein. Allez, je ne bouge plus. Donc 7,4 millivolts. Et la pile est bien chargée. Je vous rassure, elle est neuve. Donc j'ai 6,2 millivolts. Parce que là, j'ai pris un ajustable pas facile à régler. Mais voilà, j'arrive à 5,4 millivolts. Je suis pas trop mauvais. Donc ça veut dire que là, mon pont est équilibré. J'ai la même tension ici qu'ici. Enfin, à quasi, à 0, à 4 millivolts près, par rapport à la tension de ma pile qui est de 9 volts. Donc je suis quand même assez content. Et surtout, j'ai un espèce de... Enfin, mon potentiomètre, là, c'est... Voilà, c'est pas très facile à régler. Donc là, j'ai quelque chose qui est équilibré, et la question, c'est, mais quelle valeur j'ai mis? Donc je débranche ma pile, et ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer les résistances. Comment je fais pour mesurer des résistances d'ailleurs quand je suis dans cette configuration? Si je mets ici, si je mesure ma résistance comme cela, ça ne va pas marcher. Déjà, il faut que je le mette en ohm, ça marchera mieux. Pourquoi? C'est que j'ai en fait, alors je vais reprendre mon... Je déplace. Ici, je suis comme ça. Et si je mesure entre là et là, eh bien, en fait, j'ai à la fois ça que je vais mesurer, c'est bon, mais aussi je vais avoir ça, puisque ça va passer ici par ce côté-là. Donc, je suis obligé pour... pouvoir mesurer mes résistances dans ce cas-là, de couper le circuit, et comme ça, je n'aurai plus le retour du circuit parallèle que j'ai par la deuxième branche. Et donc la seule solution, c'est d'ouvrir le circuit, donc je l'ouvre ici, et là, tout d'un coup, au miracle, ça va nettement mieux fonctionner. Alors, T'as que de mes résistances, évidemment. Elle s'est tordue. Allez. Allez, allez, allez. Rentre là-dedans. Voilà. Donc, en haut, ici, ça me fait 20,1. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'était individuellement. Donc, ici. Donc, ici, j'ai 11,95. Sur ma deuxième résistance, ici, j'ai 8,22. Hein, on a dit que c'était 12 kΩ et 8,2 kΩ. En fait, c'est pas exactement ça. Hein. Vous remarquez, c'est pas exactement les vraies valeurs. Et dans ma troisième résistance, ici, j'ai 6,79. Celle-là, elle est quand même un peu plus proche de ma valeur, qui était normalement une 6,8. Et donc, ma résistance, ici, on va y arriver, en plein de filières. Ma résistance que j'ai, enfin, qui est variable là, mon petit potentiomètre, quelle est sa valeur? Je prends ma calculette. On. Et donc sa valeur, c'est 8,22 multiplié par 6,79 divisé par 11,95. Exé. Et ça doit me donner donc 4,671 kΩ. On va mesurer tout de suite. Hein. On va mesurer tout de suite. Alors, viens là. On se met entre là et là, par exemple. Ça va marcher. Allez. Et évidemment, ah, voilà. 4. Alors, ça a passé furtivement. 4,65 pour 4,671. Voilà. Sachant que j'avais pas exactement les 0 millivolts. Donc, ceci explique peut-être cela. Enfin, là, j'arrive à 4,65 pour 4,671 qui est le théorique. Voilà, sachant que j'étais pas exactement pile poil à l'équilibre. Et pour obtenir l'équilibre, c'est quand même assez compliqué. Voilà la petite manip qui vous permet de. C'est pas. Qui permet de comprendre un peu mieux ce que l'on fait. J'ai pas dû passer sur la webcam. Ben si, pourtant. Je reviens sur le PDF. Voilà, et ben je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine pour la suite du cours. Encore une fois, bon week-end et portez-vous bien. Bye bye.